La 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 la. Au nom de Dieu le très grand, la, le clément, maître de la miséricorde. La, 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 la. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi qui m'écoute et sur moi qui te parle. La, la, louange à lui. Qui a fait que le grand plaisir de l'homme réside dans la vulve de la femme et que le grand plaisir de la femme réside dans l'instrument de l'homme. Louange à lui, qui a créé la femme de cheveux et de seins, de pulpe et de chair. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé l'homme avec ses mains, sa bouche, son sexe plein de vigueur et propre à chasser la mélancolie. Viento y calor, noche de amor. Vapor de alcohol, camino azul. Pasos que doy sin confesar, sueños prohibidos, dulces luces. Béni soit celui qui a fait que le cous des femmes ne se délasse et ne se réjouit que quand l'instrument de l'homme entre en lui. Béni soit celui qui a fait que l'instrument de l'homme ne se divertit et ne se calme qu'en entrant dans le cous de la femme. Louange à Dieu qui a fait que la plus grande saveur réside dans cette opération. La, 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 la. Je parlerai donc, ô mon roi, des choses de l'amour. Chemin d'amour, chemin secret. Ouvre la porte du palais. Amour, approche de la flamme, source sensible de mon âme. Il n'y a de lumière, d'amour et de puissance qu'en Dieu, le très grand, le très haut. De lui nous partons, à lui nous retournons, à lui nous reviendrons. Et je demande son assistance pour marcher avec toi dans le chemin le plus sûr.
C'est pas pour dire, une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que le roi Midas change votre peau, au temps du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au troisième millénaire, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? Des enquêtes de Charles Cécile au pays des conteurs.
Voilà, je viens d'arriver dans le jardin de la maison d'Angèle Gonuchot. Ma foi, c'est assez sympathique. Beaucoup de verre, petit jardin, mais assez bien entretenu. Et je m'approche de la conteuse Angèle Gonuchot. Angèle, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, le gros travail de l'année, de la boîte, mais de la compagnie qui produit votre travail, qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle la compagnie La Lune Rousse.
Le gros travail de l'année, donc, s'est articulé autour des textes des Mille et Une Nuits. Hein. Alors, tout d'abord, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi, à ce moment-là, là, en 2012, les Mille et Une Nuits ? Qu'est-ce qui vous a amené à ces Mille et Une ? Oui.
C'est un monument de la littérature orale. Je crois que tous les conteurs en ont raconté au moins des morceaux, des extraits. Et donc, j'en raconte des histoires des Mille et une Nuits depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un monument et que de s'y coller, d'une certaine manière, c'est-à-dire de tout d'un coup s'attacher à rendre compte de ce monument d'une manière plus déterminée et plus longue aussi, c'était un travail que je n'avais pas entrepris jusqu'à maintenant et peut-être il me fallait un tout petit peu plus de maturité que je n'en avais il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc voilà, il m'a semblé que j'étais prête à le faire, je l'ai fait.
Gros travail ?
Ah oui, là c'est un travail de, vous disiez un an, c'est un peu plus d'ailleurs, parce que je dirais plutôt deux, au moins deux bonnes années, de lire toutes les traductions, de me défaire des choses que j'avais entendues, puisque évidemment d'autres gens et des plus illustres ont donné leur adaptation des Mille et une Nuits. Je pense à Bruno de la Salle, qui a fait en 1984 un très beau travail sur les Mille et une Nuits, mais je pense à Nasser Kemir, évidemment, ou bien à Djihad Darwish, ou encore à Pascal Quéré, c'est sûr, Pascal Quéré, qui raconte et qui est un grand spécialiste, on peut dire, des Mille et une Nuits, ou Catherine Zarkat encore. Enfin, il y a eu des gens qui ont fait des versions très belles des Mille et une Nuits. C'était important de m'en détacher. Alors ça prend du temps déjà. Et après, il y a les choix des histoires. Après, il y a la première écriture, celle qu'on fait par écrit. Et puis après, il y a toute l'écriture en rapport avec la musique et puis en rapport avec le fait de dire ces textes et de les chanter.
Je sais aimer et tisser. Je sais toutes les histoires. Fil d'amour, de secours. Je sais aimer et tisser.
Vous êtes conteuse. Est-ce que vous écrivez vos textes ?
Oui, j'écris mes textes. Il y a beaucoup de conteurs qui font ça, je pense. Aujourd'hui, les textes ne nous parviennent plus par la voix orale, par nos grands-pères ou par des conteurs. La plupart du temps, ils nous viennent de livres. Et c'est vrai que si les livres ont sauvegardé des récits qui, sans ça, peut-être se seraient perdus, en même temps... ils les ont écrits, c'est-à-dire que on est passé du coup à une langue écrite qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on utilise pour parler, pour chanter, pour psalmodier.
Donc il faut la transformer à nouveau en fait pour l'oralité, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, il faut sortir les mots des livres et les réhydrater, leur redonner de l'eau et de la chair et... voilà, donc il y a en effet un travail d'écriture, en tout cas de réorganisation des textes, soit à l'écrit, soit simplement en les élaborant dans sa tête, hein, ça dépend des gens. Moi j'écris. J'écris, ça me permet d'avoir une base de travail, après quoi, avec cette base-là, je travaille, j'improvise à l'oral, mais oui.
C'est pas pour dire une plongée au pays des conteurs.
Il y avait, dans la ville de Bagdad, un jeune homme, un porteur, jeune et célibataire. Un jour qu'il se trouvait au bazar, assis, adossé à son grand panier, une femme s'arrête devant lui. Elle soulève son petit voile de visage et d'en dessous, alors, apparaissent deux grands yeux noirs et leurs paupières ornées de longs cils. Le porteur est subjugué. Et la voilà qui dit d'une voix suave, « Je m'appelle Zoubeïda, et si tu es vigoureux, j'ai besoin de tes services. Prends ton panier, suis-moi. » Le porteur, qui n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles, obéit. Elle s'arrête à la porte d'une maison, frappe. Un chrétien en descend, à qui elle donne un dinar contre quelques olives qu'elle dépose dans le panier du porteur. « Emporte ça, suis-moi. » Le petit porteur obéit. Devant l'échoppe d'un fruitier, à qui elle achète des pommes de Syrie, des coins d'Osmanie, des pêches d'Oman, du jasmin d'Alep, des fleurs de Damas, concombres du Nil, cédras du Sultan, du myrte d'Oran, des citrons d'Égypte, des fleurs de henné, fleurs de grenadier, narcisses jolies. Elle met tout ça dans le panier du porteur et dit « Emporte ça, suis-moi !» Le petit porteur obéit. S'arrête chez le boucher, fait un saut chez le parfumeur, fait halte chez le pâtissier. Elle lui achète des gâteaux en forme de cornes, de peignes, de doigts, des confiseries au miel, aux figues, aux amandes, des crêpes musquées et fourrées. Elle achète 10 sortes d'eau, de roses, de saules, de fleurs d'oranger, quelques mesures de boissons enivrantes, des graines d'encens mâle, du bois de senteur, de l'ambre, du musc et de la cire d'Alexandrie. Le portefeuille s'écrie, mais ce ne sont pas que quelques emplettes, c'est un festin que tu prépares. Tu aurais dû me prévenir, j'aurais pris un mulet qui nous aurait porté tout ça. La femme sourit et continue. Devant un palais, haut, avec de solides piliers d'angle et une porte à deux vantaux d'ébène plaqués d'or rouge. Zoubeïda frappe à la porte. Les deux vantaux s'écartent, une jeune fille apparaît. C'est Amina, la jeune sœur de Zoubeïda. Elle voit le petit porteur, mais pourtant, elle ne se couvre pas le visage. Elle a des yeux de gazelle. Ses sourcils sont comme le premier croissant du Ramadan. Ses joues sont comme des anémones, sa bouche le sceau de Salomon. Le petit porteur en perdrait le sens. Il vient de découvrir, dans la salle derrière, une troisième sœur, la plus jeune des trois. Elle s'appelle Fatima. Sa beauté fait honte à l'éclat du soleil. Ses seins, deux grenades bien accordées, et un ventre dessiné sous l'habit aussi bien qu'un cachet sur la lettre. La jeune fille se lève, avance gracieusement jusqu'au milieu de la salle près de ses deux sœurs à qui elle dit « Zoubeïda, Amina, pourquoi rester plantée là ? Soulagez plutôt ce pauvre jeune homme !» Et voilà les trois jeunes filles qui délivrent le petit porteur de son fardeau si lourd. Zoubeïda lui donne une pièce, elle veut le renvoyer, mais lui, il ne bouge pas. Il ne peut pas. Il ne veut plus partir. Il est hypnotisé. Il risque « Mesdemoiselles, vous savez bien que le mulet ne tient debout que parce qu'il a quatre pattes. La table, quatre pieds, et le minaret aussi ne tient que s'il repose sur quatre angles. Or, mesdemoiselles, vous n'êtes que trois. Ce quatrième vous manque. J'ai transporté aussi pour vous des fleurs, des boissons exquises, des pâtisseries qui annoncent une fête. Une fête ? Sans homme ? Mais ce serait un peu triste. Je propose de faire le quatrième pour l'équilibre. Vous verrez, vous ne le regretterez pas, je suis un homme de bonne compagnie. » Il plaisante. Les trois sœurs, Zoubeïda, Amina et la jeune Fatima, se mettent à rire et disent «
Il n'est pas convenable qu'un homme passe la nuit chez nous. Mais elle se concerte cependant. Et Zoubeïda revient et dit « Jeune homme, sais-tu lire ?» Le porteur rougit. Il n'a jamais appris à lire. Mais Zoubeïda lui dit « Regarde, au-dessus de la porte, il y a écrit « Garde tes lèvres scellées sur les secrets d'autrui, ne pose pas de questions et tu vivras heureux. Si tu interroges, tu mourras. Comprends-tu cela, jeune homme ?» Oui, je le comprends. Si vous me gardez avec vous, je ne questionnerai pas, je ne demanderai rien. Bien, alors reste, disent les trois filles. Et la soirée commence.
Petit porteur croyait rêver. Lui, un homme du peuple, lui, un pauvre travailleur, passait la soirée dans un palais entouré de trois merveilles de jeunes filles.
Alors, il y a un très fort rapport à la musicalité. On parle de la musicalité du texte. Et là, à cette musicalité du texte, vous avez en fait fait le choix d'y ajouter de la musique instrumentale. Comment toutes ces musicalités coexistent-elles ? Se chevauchent-elles ? Est-ce qu'il y en a une au service de l'autre, par exemple, ou...
Ben, les deux sont... Enfin, bon, évidemment, on est au service des mille et une nuits de ces histoires-là, mais enfin, quand même, le texte comme matière, à des moments, est au service de la musique, puisqu'il est. En fait, de plus en plus, je suis persuadée qu'il n'y a pas une grande différence entre... la parole et la musique. La parole, c'est de la musique. Là, quand je suis en train de parler, là, j'ai un rythme, un tempo. Je peux varier mes hauteurs et aussi l'énergie que je mets dedans. Enfin, voilà, c'est de la musique. Et donc, quelquefois, ma matière de mots se met au service de la musique. Et puis, quelquefois, le compositeur s'est mis au service de mes mots. Enfin, on a travaillé ensemble, deux auteurs, pour... rendre compte des mille et une nuits.
Alors, un petit rappel des mille et une nuits. Les mille et une nuits, c'est quoi cette histoire-là ?
Alors, les mille et une nuits, d'abord, c'est un ensemble de textes très importants. Il y a une dizaine de siècles maintenant, ils ont été fixés à l'écrit dans la région de Bagdad. Mais enfin, ce sont des textes nomades, ils se sont baladés beaucoup. On pense qu'ils ont une origine indienne et puis que ces récits ont voyagé, se sont enrichis de la culture arabe, macédonienne, persane. Ce sont maintenant des récits résolument arabes, mais enfin qui appartiennent aussi à l'humanité. Voilà, donc il y a 10 siècles, ils ont été plus ou moins fixés à l'écrit sous ce titre-là, « Les contes des mille et une nuits ».
Alors, une héroïne principale, quand même, Scheherazade, Et cette Scheherazade, quelle est l'histoire en fait qui la lie au roi Shahriar dont il est question?
Alors, il est question d'un très grand roi, c'est ça, le roi Shahriar, dont il me semble le nom veut dire très grand roi. Ce roi-là régnait sans partage sur une grande partie du monde. Il était respecté de ses sujets et tout ça, mais un jour, il découvre que sa femme le trompe. C'est insupportable pour lui, à tel point qu'il devient fou. Et pour ne plus jamais souffrir, décide qu'à partir de ce jour-là, chaque jour, il va épouser une nouvelle femme.
Alors ça va très loin cette histoire-là, puisque le royaume devient exsangue. Hein. Toutes les jeunes filles, les jeunes femmes sont exécutées.
Ah, c'est un vrai abus de force, de pouvoir. Et voilà, il le fait. Jusqu'au jour où la fille aînée du vizir obéissant, le fameux vizir qui fait exécuter chaque jour les femmes, la fille aînée décide qu'elle va affronter le roi. Elle va l'affronter sans armée, sans soldats. Elle va l'affronter avec une chose incroyable. Elle va lui raconter des histoires. Et voilà, c'est Scheherazade, la fameuse Scheherazade, qui donc se marie avec le roi et lui raconte des histoires. Alors, elle utilise un subterfuge. Le premier soir, elle dit « Oh, mon roi, j'avais l'habitude de raconter des histoires à ma petite sœur, la jeune Dinarzade, et puisque je vais mourir avec le lever du jour, est-ce que tu permettrais que je fasse venir ma sœur et que pour elle, je raconte une histoire ?» Et le roi dit « Oui, oui, bien sûr, puisque tu mourras demain, fais venir ta petite sœur et raconte-lui ce que tu voudras. » Elle commence l'histoire, et au matin, au moment où le jour se lève, elle doit être exécutée, mais son récit n'est pas terminé. Et le roi, qui peut-être faisait semblant de ne pas écouter, mais qui a écouté quand même, veut savoir la fin de l'histoire. Alors, exceptionnellement, il suspend son arrêt de mort pour que Scheherazade puisse raconter la fin de cette histoire la nuit d'après. La nuit d'après, Scheherazade reprend son récit, et au matin, le récit n'est pas terminé. Et le roi doit suspendre une fois de plus son arrêt de mort, et de fil en aiguille, si on peut dire, le roi suspend son arrêt de mort comme ça pendant 1001 nuits. Pendant 1001 nuits, Scheherazade raconte et emmène avec elle le roi dans des histoires qui sont quelquefois des histoires simplement pour passer le temps, des histoires pour rire, quelquefois des histoires tragiques, des grands romans d'amour, des fables aussi, des récits ésotériques.
Un peu politiques aussi par moments.
Et des récits, et aussi des récits politiques, oui, il est beaucoup question de l'usage du pouvoir, plus ou moins sage, au travers de ce fameux calife, qui est un calife fictif dans les mille et nuits, mais qui est un vrai calife qui a vraiment existé dans l'histoire, qui s'appelle Haroun al-Rachid, de la grande lignée des Abbassides. Et voilà, donc il est question de ce calife beaucoup et de comment il use de son pouvoir. Et évidemment, des histoires d'amour.
Et des histoires d'amour. Alors, on va y revenir sur ces histoires d'amour, parce que c'est un peu le choix de l'émission de donner de larges extraits des Dames de Bagdad, qui sont donc les textes les plus érotiques des Mille et Une Nuits. Avant cela, est-ce qu'on peut dire que ce type de combat que mène Scheherazade, avec ses mots, ses histoires, contiennent une part de contemporanéité? Allez, j'espère que je ne me suis pas trompé en disant le mot.
Il me semble que les récits contiennent une part de contemporanéité, dans le sens où un conteur doit, il me semble, sans être trop péremptoire, mais quand même, il me semble qu'un conteur doit vérifier avant de raconter une histoire en quoi elle est vraie pour lui, et en quoi les circonstances, les personnages de l'histoire sont contemporains chez lui, sont des parties de lui-même, disons. Donc, un récit, les textes, ces textes oraux de la littérature orale, populaire ou pas d'ailleurs, sont contemporains, il me semble. En tout cas, le conteur les contemporanéise, les inscrit dans un temps d'aujourd'hui. Mais bon, j'étais particulièrement touchée par le subterfuge de Scheherazade qui utilise comme arme, disons, la parole, et pas n'importe laquelle, c'est pas la parole électorale ou religieuse, ou c'est pas une parole qui essaye de convaincre, c'est celle qu'on adresse aux enfants. C'est la parole nocturne des contes qui a une grande fragilité, et je pense que c'est cette fragilité justement qui est la grande force de Scheherazade. C'est Assad contemporain, c'est-à-dire qu'on vit quand même dans un monde violent qui n'a pas cessé de l'être. Enfin, les guerres aujourd'hui, peut-être sont, en tout cas dans notre espace à nous, sont plus des guerres économiques et de classe, bien qu'on dise que ça n'existe plus, les classes sociales, mais enfin quand même. D'affirmer que les mots, l'usage des mots, peut quelque chose, peut nous relier les uns aux autres, peut nous relier les uns aux autres dans une famille, dans un pays, dans une culture, mais aussi à travers les frontières, les cultures, peut nous relier, nous consoler, nous réparer, recoudre le tissu social. Il me semble que c'est tout à fait contemporain, et même, je suppose que ça le sera de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus besoin d'être reliés les uns aux autres. Le projet que j'ai fait sur les mille et une nuits est un projet d'une grande traversée des mille et une nuits qui dure plus ou moins 3h30, quelque chose comme ça. La dernière heure est l'heure des récits érotiques, des textes érotiques. Parce que bon, on peut aussi imaginer qu'au bout d'un moment, Scheherazade ne craint plus vraiment pour sa vie. Et donc elle semble dire au roi avec qui, selon toute vraisemblance, elle va continuer à vivre. Bon, maintenant que la vie n'est plus en cause, peut-être on pourrait s'intéresser aux choses de l'amour. Peut-être je pourrais te dire comment une femme fonctionne, comment ça marche. Par en dessous, moi je me suis toujours dit que si sa femme le trompait, ce grand roi, c'est qu'il ne devait pas être si doué.
Il avait peut-être besoin de leçons, ce brave homme. Alors, en fait, ces textes des Dames de Bagdad, là, de la troisième partie dont vous parlez, de votre travail, ces textes disent des choses, de l'érotisme, de la sexualité des femmes, en des termes quelquefois très précis, peut-être même un peu crus parfois, mais sans tomber jamais dans la vulgarité. Alors, bon, est-ce que ça a été dur, ça, à réaliser? Est-ce que ça a représenté une difficulté dans le travail de création?
D'abord, il faut dire une chose, c'est que l'origine de ces textes n'est pas entièrement des Mille et une nuits. Je suis allée chercher dans des textes persans, dans des textes. Je pense au Jardin parfumé, qui était un manuel d'érotologie arabe, ou bien le Jardin des roses et des soupirs, les fleurs éclatantes dans les baisers, l'accolement. Et puis je suis allée chercher aussi dans les quatrains d'Omar Khayyam pour la poésie sur l'amour, mais aussi le vin, voilà. Donc ces textes ont aussi d'autres sources que les Mille et une nuits, bien que les Dames de Bagdad, ce soit le récit cadre des Dames de Bagdad, c'est le fameux récit dans les Mille et une nuits du portefeuille des dames, des trois dames.
Mais est-ce que on peut dire que, bon, ces récits sont anciens, est-ce que on peut dire que la société ancienne orientale était, entre nous, assez branchée? Est-ce que l'érotisme était reconnu comme
On ne sait pas. Ça, mais ces textes sont en effet très crus, très poétiques, mais très crus. Pour l'écriture, moi, je me suis contentée de les organiser un peu différemment, éventuellement de poncer, raboter quelques syllabes par-ci par-là pour pouvoir en faire des chansons. Bon, mais j'ai quand même gardé la substance des textes là. Dans quelle mesure les gens parlaient aussi librement, j'en sais rien. Ce sont des textes de lettrés, n'empêche. Donc j'en sais rien, mais on trouve pas tellement l'équivalent à la même époque chez nous, hein. Ce sont vraiment des textes érotiques.
Il y a une culture érotique, quoi.
Ah, ouais, ouais. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure, qui était est-ce que ça a été difficile, est-ce qu'il y a une difficulté particulière, la première difficulté, je m'en suis rendu compte en parlant du projet d'abord aux gens. Et aux programmateurs, puisqu'on doit maintenant vendre les spectacles avant qu'ils ne soient faits, les gens ont un fantasme sur les mille et une nuits. Et donc, quand je parlais de ce troisième mouvement, de cette troisième heure, qui concernait des textes plus érotiques, les gens s'imaginaient des choses incroyables. J'avais pas envie de placer les spectateurs ou les auditeurs dans une position de voyeur ou de... Je voulais les mettre en contact avec cette chose légèrement dangereuse qui est de parler d'amour et de la sexualité féminine. Après, la deuxième, je suis entourée sur scène de garçons.
Alors, trois musiciens, un violoncelliste, Stéphane Auster... Un cymbalomiste.
Cymbalomiste, oui, Mihai Trestian. Et puis un flûtiste qui s'appelle Pascal van den Bulk, plus le compositeur Gerardo Jerez Lecam, qui a accompagné beaucoup les répétitions. Donc il y avait dans cette pièce quatre hommes, et je me disais, je vais dire ces textes-là, il faut assumer de les dire. Donc la difficulté, ça a été de témoigner de ces textes le plus justement possible. Et quelquefois, j'ai senti en les disant que je me faisais légèrement violence, donc je faisais légèrement violence aussi au public qui quelquefois me la renvoyait en disant « Oh non, mais là vraiment, non, c'est... » bon. Et puis petit à petit j'ai trouvé, maintenant l'équilibre est juste et c'est un vrai moment de poésie délicate, c'est délicat, c'est très joli et délicat.
Les mille et une nuits racontées par Angèle Goduchot.
Ce sont trois hommes, trois étrangers, trois borgnes, ils sont tous rasés et borgnes de l'œil droit, ils disent qu'ils savent jouer, chanter de la musique. Accueillons-les, nous nous amuserons bien. On accueillit les trois borgnes après qu'ils eurent lu au-dessus de la porte « Garde tes lèvres scellées sur les secrets d'autrui, ne pose pas de questions et tu vivras heureux, si tu interroges, tu mourras. » Ils jurèrent de ne rien demander, la fête commença.
Une gorgée de vin rubis vaut bien mieux qu'un royaume. Puisque ce monde n'est que poussière, qu'un souffle d'air efface. Buvons le vin puis chantons. 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 Plein de désir, j'ai mis mes lèvres aux lèvres de la jarre. Combien longue sera ma vie? Bois du vin, me dit-elle, car tu redeviendras poussière. Buvons le vin puis chantons. Buvons le vin puis chantons. buvant le vin puis chantant.
Voilà qu'on frappe à la porte. Zoubeïda s'en va regarder par là. C'était le calife Haroun al-Rachid, son vizir Jafar et Masrour le porte-glaive, déguisés en marchands. Ils avaient entendu du bruit et frappé à la porte. On fit entrer les trois faux marchands à la condition qu'ils ne posent aucune question. Ils jurèrent de ne rien demander et la fête continua.
Ce soir, j'ai le désir du vin, d'où me vient toute joie. Même âpre, il me réjouit le cœur, âpre est aussi la vie. Buvons le vin, puis chantons. Buvons le vin, puis chantons. Buvons le vin puis chantons. Buvons le vin puis chantons.
Il était minuit. Zoubeïda annonça à ses deux sœurs : Allons, il nous faut accomplir les rites. Les deux autres répondirent : Nous sommes à tes ordres et nous obéissons. Aussitôt, toutes trois se rhabillèrent.
Les trois musiciens du spectacle, parlons-en de ces trois compères-là. On les sent très, très complices sur scène, dans une espèce d'énergie collective commune, hein, voilà, très respectueuse, très calme, sans qu'il y ait de gestes inutiles. Est-ce que ça fait l'objet d'un travail particulier, un travail de mise en scène, mise en espace ?
Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aime travailler avec un regard extérieur, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois et que ça rend plus libre, disons. Donc Daniel Maxent, qui est metteur en scène de théâtre, mais qui a beaucoup travaillé la danse, théâtre, et qui s'intéresse à l'espace d'une manière un peu plus ouverte, je trouve, que ne le font les metteurs en scène de théâtre, collabore avec moi depuis un moment sur un certain nombre de spectacles. Là, elle a beaucoup travaillé à nettoyer, disons,
épurer quoi.
Parce qu'évidemment, les musiciens, la présence des musiciens dans un concert est un tout petit peu différente de la présence des musiciens en rapport avec une histoire. Donc là, oui, il y a eu un vrai travail de regard extérieur.
Alors, c'est très réussi, parce qu'à la fois, leurs gestes sont assez épurés, peu nombreux, et paradoxalement, ça accentue leur présence.
Oui, oui, ils étaient très étonnés, hein, au début très étonnés de ce travail, et très contents.
Abrir las puertas. La lluvia corre tras nubes de frutos salvajes.
Prunes, poires, grenades, pêches, dattes, figues rouges, abricots éclatants, tous ces fruits l'attendaient et semble t'appeler et sa main et sa bouche. Autre clé, autre porte. Dans ce second jardin, des fleurs innombrables de toutes les couleurs s'ouvrent à son passage. rosiers rouges et blancs, jasmin, narcisse, violette, églantier, lys, jonquille, marguerite, giroflée. Des nuées d'abeilles volent de fleur en fleur. Le vent doux du jardin transporte les parfums de ces fleurs jusqu'à lui et l'enivre.
Alors on a parlé des musiciens. Ce serait intéressant aussi de pouvoir un petit peu décrire la scène où ces dames de Bagdad sont données. Il y a des éléments de décor, vous allez pouvoir nous les décrire. Et puis, j'aurais quelques questions à vous poser sur cet aspect théâtral ou non de ces décors. Alors, décrivez-nous les Dames de Bagdad, dans quel cadre ?
Bon, finalement, maintenant, avec un an de diffusion de ce spectacle, on a déjà joué beaucoup, donc on a joué dans des lieux très différents. Mais enfin, à sa création, sur une scène grande, puisque c'était entre autres la scène nationale de La Roche-sur-Yon, c'est un décor de tiges de métal doré qui pourrait ressembler aux tiges, aux barreaux d'une cage à oiseaux, peut-être, il y a quelque chose comme ça, des volutes dorées qui dessinent un espace, et puis au sol des pétales de rose. Et voilà, un siège pour moi. Évidemment, le cymbalum est déjà un meuble, donc ça occupe un espace. Et puis donc une scénographie assez simple qui dessine simplement un espace. Et des lumières, une création lumière très importante qui dessine aussi un espace. Mais il n'y a rien de figuratif. C'est simplement un lieu dans lequel on installe comme un écrin, disons, un écrin pour l'histoire. Comme un écrin pour l'histoire, voilà. Donc il n'y a pas...
C'est pas un décor théâtral, en
non,
fait.
Il n'y a pas de décor dans le sens théâtral du terme, ou figuratif, ou bien voilà, c'est un écrin pour cette histoire là et on a pu expérimenter d'ailleurs, puisque on a aussi été accueillis par des lieux qui n'étaient pas des lieux qui se prêtaient à poser des décors. Bon, cette histoire peut se raconter aussi sans rien, hein, voilà. Mais c'est vrai que sur un plateau de théâtre, avec les lumières et avec le décor, et on peut jouer du coup, et pour les Dames de Bagdad, de jouer entre l'ombre et la lumière, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, les échancrures de vision, disons, ça rajoute quelque chose pour moi aussi, hein, dans la manière de dire les choses.
Et cependant, ces éléments-là sont suffisamment symboliques et simples et légers pour ne pas figer en fait l'imagination du public.
Oui, c'est vrai que ce que vous dites me fait penser à une chose qui a été une des grandes gageures, disons, de ce spectacle. C'était à la fois de ne pas nier l'imaginaire de chacun par rapport aux mille et une nuits qui pensent, mille et une nuits pensent soyeux, colorés, vaporeux peut-être. Enfin, il y a tout un imaginaire sur l'Orient, voilà, comme ça. De pas nier ça, mais en même temps de se placer à côté. C'est-à-dire que on n'a pas fait dans l'oriental. Mais en même temps, le créateur lumière, par exemple, a utilisé des filtres pour les lumières les plus saturées en couleurs, par exemple. Voilà. Et la difficulté, c'était ça, de tenir ça. Je voulais une grande sobriété, de de décor, disons, d'éléments scénographiques. Je voulais quelque chose de très sobre parce que, finalement, quand même, à l'arrière-plan de ces histoires, plus ou moins rocambolesques, il y a une femme qui prend le pari sur sa vie de guérir quelqu'un avec des mots, et il y a quelque chose d'un peu âpre, disons, à l'arrière-plan.
Étranger, tu es le bienvenu. Tu es ici chez toi. Tu étais ce qui manque à notre bon plaisir. Tu es sensé et beau. Tu es gentil, courtois, c'est ce que nous aimons. Ta poitrine est légère, elle n'étouffe pas, tandis que ton bassin, au contraire, pèse bien, c'est ce que nous aimons. Ton instrument est beau, de bonne dimension. Il s'éveille rapidement, il est très vigoureux mais aussi endurant, c'est ce que nous aimons, tout est parfait. On ne peut rêver mieux. Cependant, si tu veux, nous allons t'enseigner ce que peu d'hommes ont su et ce que peu d'hommes savent, quelles que soient les époques. Ça vous intéresse aussi, messieurs.
Si tu connais le basilic, la douce plante aromatique, tu sais donc qu'il faut la presser, la réchauffer entre tes doigts pour que son parfum s'exhale. La femme est faite tout pareil. Si tu ne la caresses pas avec tes mains, avec tes mots, elle te restera étrangère, elle ne te donnera rien. Il convient donc que tu l'excites avec des parfums de musc, ambre jaune, ambre gris. Avec des parfums, la femme sera disposée à l'amour. Ensuite, il faut que tu lui parles, que tu l'appelles ma princesse, ma gourmande, ma toute belle. C'est un secret que peu d'hommes ont jamais pu découvrir. Un tout petit mot d'amour, à voix basse, dans l'oreille, éveille la partie chaude et la met en appétit plus sûrement que des caresses. Tiens, disons juste, je t'aime. C'est difficile, c'est vrai, mais voyons. Essaye quand même. Tu vois, ça n'est pas difficile. Et juge du résultat. À tes mots doux chuchotés, souvent la femme répond par des soupirs passionnés. Soupirs passionnés.
Reprenons notre leçon. Mais d'abord, récapitulons. Si tu veux plaire à ta femme, parfumer, caresser, parler sont les premières choses à faire. Ensuite, tu lécheras ses lèvres, tu lui suceras la langue, tu lui mordilleras les seins, tu lui baiseras le nombril, les cuisses et le bas-ventre. Enfin, tu feras connaissance avec son grain de sésame, avec l'endroit où ça brûle. T'arrêter là un moment, visiter le monument. Là, elle deviendra malléable comme de l'argile mouillée. Si elle bouge de haut en bas, tu sauras qu'elle désire que ton membre la pénètre. Alors elle sera à toi, et toi tu seras à elle. Conjoins-la comme tu voudras, que votre lubricité soit portée au plus haut point. Lorsque vous aurez fini, ne te retire pas brusquement. Laisse-la serrer les cuisses, et ainsi sors doucement de son orifice étroit. Nous écouter comprends, si tu suis nos instructions, tu seras le plus savant et le plus aimé des hommes de ce siècle et des prochains.
Let's be.
C'est pas pour dire. Et j'interviewe ce jour Anne-Gaëlle Goduchot.
C'était une belle leçon.
Ah, on entend. On est dans mon jardin, en effet, et comme c'est l'été, les gens font des travaux. Donc vous entendez des voisins qui font des étagères, sans doute.
Alors, y a-t-il... on va attendre peut-être un tout petit peu que les outils, les machines-outils s'arrêtent. Anne-Gaëlle Goduchot, bien que vous nous ayez donné quelques éléments sur les histoires et à quoi elles servent, comme c'est une question que je pose pratiquement à tous les conteurs de l'émission C'est pas pour dire, allons-y. Raconter des histoires, à quoi cela sert-il dans notre monde moderne?
Ça dépend à qui. Et puis ça dépend quelles histoires.
Alors à ceux qui les écoutent déjà, à quoi servent les histoires? Pour ceux qui les écoutent.
Ça regarde vraiment chacun. Mais je peux dire que par rapport aux mille et une nuits, c'est vraiment, les mille et une nuits sont vraiment des histoires pour traverser la nuit. Les histoires, dans ce cas-là, servent comme un flambeau, comme une lumière pour traverser la nuit. Et pour éviter la barbarie.
La fameuse parole nocturne et apaisante dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais, les mille et une nuits servent à ça, il me semble, à rappeler que la parole est une chose
réparatrice.
Ouais, je trouve que ça sert à ça. Et aujourd'hui, il y a quand même vraiment besoin. Beaucoup de gens ont vraiment besoin, et la société a elle-même besoin d'histoire, il me semble.
Et à quoi ça sert pour celui qui raconte?
quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, a dit un jour, finalement, si les histoires guérissent, le plus grand malade, ça doit quand même être le conteur, parce qu'il raconte sans cesse. Donc ça veut dire qu'il écoute aussi sans cesse ces histoires. Et celui qui raconte, à quoi ça lui sert? À chaque fois que je rentre en contact avec une histoire, je rentre aussi en contact avec quelque chose de moi que j'ignore et que je ne peux approcher que comme ça.
Vous explorez à chaque fois, vous montez sur scène, vous explorez quand vous préparez votre spectacle.
Les deux. C'est ça qui est troublant. C'est que dans la préparation, alors là c'est une première exploration, très importante et souvent très profonde, très remuante aussi, très bouleversante quelquefois. Et puis, il y a un moment où je me sens prête à raconter, à faire cette traversée-là avec d'autres gens. Et à chaque fois, c'est une nouvelle exploration. C'est-à-dire, ce que je cherche, et je crois que ce que les conteurs ou les artistes en général cherchent, c'est à ce moment de magique où, en racontant pour quelqu'un et pour soi-même aussi, on découvre des choses nouvelles, des choses... Tout d'un coup, je réalise que ça parle de quelque chose que je n'avais même pas soupçonné. Ça parle d'une chose... je ne savais pas que la question était si vaste. Et l'exploration dure toujours. Et je pense que si jamais l'exploration devait prendre fin, franchement, ça n'aurait plus aucun intérêt de raconter du tout. Dans ce cas-là, les disques... prennent le relais pour que des gens puissent les écouter et explorer aussi, eux, en écoutant.
C'était la 40e femme, la plus belle en vérité. Ce fut aussi la dernière. Il s'approcha d'elle et lui enleva son petit voile de visage. Alors, il vit ses lèvres qui, comme deux pétales de rose humides, abritait une langue vermeille. Se rappelant des leçons qu'il avait reçues, il dit « Ô ma toute belle, toi, la fraîcheur de mes yeux, sais-tu à quoi je pense? En regardant ta bouche de délice, je devine les beautés de ta vulve. Dis-moi si je me trompe, elle est potelée, rebondit dans toute son étendue. Elle a les lèvres longues et les bords écartés parfaitement symétriques. Sa forme est gracieuse, son odeur suave
elle est moelleuse et si chaude que le feu pourrait en jaillir. Ô ma belle, ma fente, mon cousse, ma généreuse, ma plante aromatique, mon basilic qui pousse sous les ponts, mon pur grain de sésame, mon auberge accueillante. La jeune femme sentit sa partie chaude se troubler et le feu entrer dans ses veines. Tout son corps tremblait de désir. Elle se laissa tomber sur le lit de soie, dénuda ses jambes et écarta légèrement les cuisses. À la vue de cette chair de Ouria, lui sentit le désir faire le tour de son corps et soulever l'enfant endormi. Alors, il se déshabilla, s'avança, lui saisit les jambes, les attira à lui et les écarta. Son corps à lui était parfumé d'ambre gris, de musc et de cinnamone. Il commença par fureter pour savoir ce qu'elle cachait dans les replis de son corps. Il toucha, caressa, rassembla ses deux seins, les libéra, se mit à badiner la jeune fille de toutes les façons possibles. Il lui prodigua les baisers sur les deux joues, la bouche, l'angle du menton, le cou et suça son mamelon. Puis il prit la courbe, versa vers la partie chaude, lécha son nuit, réunit les lèvres et la perle. Succion, agrippement, humidité, serrement, embrassement, tapotage, pilonnage, pétrissage, soupir, miaulement, rire, paroles douces comme caresses. Ils étaient toutes combustion. L'instrument du jeune homme était dressé et voltigeait tout autour de la vulve de son amante. Elle regarda cette verge dressée comme une colonne, elle s'en émerveilla, la caressa, la frotta contre ses lèvres, se mit à estimer l'objet pour savoir si son nuit pouvait le contenir. Et soudain, l'engouffra tout entier dans son ventre. Il semblait fait sur mesure, il s'adaptait à merveille. Elle poussa un soupir, puis leurs deux appétits s'unirent en une ivresse joyeuse. Le bélier entra et sortit, le fuseau travailla sans répit, le doigt entra dans l'anneau, le chameau avança son long cou, l'oiseau pépia dans son nid chaud. La peau s'appliqua sur la peau. Alors,
Anne-Gaëlle Goduchot, donc vous êtes derrière tout ce travail des Mille et Une Nuits qui se compose de trois mouvements, on va les rappeler.
Alors, le premier mouvement s'appelle Sherazade, tisserande des nuits. Le deuxième mouvement s'appelle Amanecer, marchand d'histoire. Et le troisième, les Dames de Bagdad. En fait, tout ça dessine une grande traversée des Mille et Une Nuits qu'on peut raconter dans l'intégralité pour un public plutôt d'adultes. Puisque dans ce cas-là, ça dure plus ou moins 3h30 avec un petit entracte quand même, mais voilà. Mais on peut aussi évidemment raconter séparément. Sherazade est visible également pour des enfants, même à partir de 7 ans. Amanecer pour des gens un petit peu plus vieux. Et bah, les Dames de Bagdad, c'est quand même plutôt pour les adultes.
Alors je crois que la compagnie La Lune Rousse qui produit votre travail a fait le choix, un choix délibéré d'aller vers les enregistrements maintenant du travail de conteur que vous faites.
Oui, les conteurs aujourd'hui, enfin en tout cas j'en connais beaucoup qui font des travaux très beaux et qui mériteraient d'être enregistrés à titre d'œuvre, à écouter, réécouter. Aussi parce que les contes, il y a un grand plaisir à entendre, réentendre une histoire, comme on faisait autrefois quand on était petit et qu'on demandait à notre papa ou à notre maman de nous raconter plusieurs fois la même histoire.
Encore et encore la même, oui.
Encore et encore la même. J'ai eu la chance d'entendre des récits de collègues et d'amis un certain nombre de fois. Le Peter Pan de
Paul Latorre, par exemple, je l'ai entendu depuis en travaux et puis depuis sa création au moins 6 fois ou 7 fois. Donc, je reconnais des morceaux par cœur. C'est un grand plaisir, ça. Donc, à ce titre-là, comme œuvre, il mériterait d'être enregistré, mais aussi comme morceau d'un répertoire qui est en train de se construire, de se reconstruire. Les conteurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les conteurs traditionnels d'il y a un siècle. Et le répertoire lui-même est en train de se construire. On apporte tous notre petite pierre au répertoire. Et je trouve que de les enregistrer, c'est aussi un témoignage d'une littérature orale vivante. Mais c'est une vraie discussion avec mes collègues parce que souvent ils n'enregistrent pas. Et Paul, dont je parlais tout à l'heure, je lui ai dit plusieurs fois, si j'avais des sous, je viendrais et j'enregistrerais ton Peter Pan et je le distribuerais partout. Mais elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté éphémère qui est très beau aussi. Et je dois dire que j'ai longtemps pensé que la grande beauté du conte, c'était son côté éphémère. Et en tout cas, d'une expérience partagée entre quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui écoute. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas plus vrai que l'expérience d'un concert. Et c'est vrai que c'est irremplaçable, un concert, quand tu vas entendre un orchestre ou un musicien, un chanteur, n'importe, jouer de la musique, c'est irremplaçable ce moment qui se construit entre la personne qui dit, qui joue, et la personne qui écoute. Mais ça ne nous a jamais empêché d'écouter le Requiem de Mozart ou la Passion selon saint Matthieu de Bach dans la voiture ou à la maison. Ça n'enlève rien. L'un n'enlève rien à l'autre. Donc j'essaye de convaincre mes collègues. Mais enfin, ça y est, maintenant je suis convaincue.
En ce qui vous concerne, vous enregistrez et la compagnie qui vous produit.
D'autant que là, il y avait donc un travail d'un compositeur et de musiciens qui sont très bons, donc très pris. Et donc on a enregistré tout de suite.
Angèle Gauduchot, merci beaucoup. Et
merci vous aussi de ce moment-là.
À très bientôt.
Au revoir.
C'est pas pour dire, une émission produite par la compagnie La Lune Rousse. Alors vous pourrez retrouver les disques des Mille et Une Nuits de Angèle Gauduchot et du compositeur Gerardo Reres Le Cam sur le site du Jardin des Mots, une librairie en ligne. Les Nantais et les gens des alentours pourront entendre les Dames de Bagdad et même la grande traversée des Mille et Une Nuits, mercredi prochain, 11 décembre, au TNT à Nantes.